Une vie, une œuvre, merci de nous rejoindre. Notre portrait aujourd'hui est celui de Georges Bataille, 1897-1962. Une émission qui s'inscrit dans le cadre plus large de l'hommage que nous rendons aujourd'hui sur France Culture à cet écrivain à l'œuvre particulièrement dense, puisqu'il y a mêlé les champs de la sociologie, de l'économie, de la philosophie, de l'histoire de l'art ou encore de l'anthropologie. Ce soir donc, à partir de 21h et jusqu'à minuit, toute une soirée de lecture et de table ronde seront animées par François Angelier. Et ce ne sera pas de trop pour cerner cette œuvre immense. Il faut dire que parler de Bataille, 50 ans après sa mort, c'est toujours poser la question de la transgression. Et on peut se demander en quoi cet écrivain est encore subversif, alors qu'il suffit aujourd'hui d'aller sur Internet pour trouver des images au moins aussi crues que les scènes bien connues de son histoire de l'œil. La réponse est sans doute que la transgression pour Bataille est loin d'être uniquement sexuelle et que la société actuelle, sous ses airs libertins et permissifs, est peut-être au fond bien plus cadenassée qu'elle ne l'était du temps de Bataille, d'où l'importance de revenir aujourd'hui sur cette œuvre passionnante, comme l'ont fait pour nous Françoise Esteb et Julie Bérécy.
Évidemment, je suis philosophe, au moins jusqu'à un certain point, et toute ma philosophie consiste à dire que le principal but que l'on puisse avoir est de détruire en soi l'habitude d'avoir un but. Ça consiste à supprimer, en somme, ce que des millénaires d'humanité ont accumulé d'ordre dans la pensée, au profit de ce désordre de la pensée qui me plaît et qui me paraît, somme toute, contrevenir à une frustration générale. Dans le désordre de la pensée naît par exemple la poésie. L'intensité des sensations est précisément ce qui détruit l'ordre. Et je ne crois pas que cela ait d'autre intérêt. Il est essentiel pour les hommes d'arriver à détruire en somme cette servilité à laquelle ils sont tenus du fait qu'ils ont édifié leur monde, le monde humain, monde auquel je tiens, d'où je tiens la vie, mais qui tout de même porte avec lui une sorte de charge, quelque chose d'infiniment pesant, qui se retrouve dans toutes nos angoisses et qui doit être levé d'une certaine façon.
L'homme a échappé à sa tête, comme le condamné à la prison.
J'aime bien, je dois le dire, cette image où l'on voit Bataille dans un champ en Auvergne avec une espèce de grand sourire aux lèvres, même si la photo est prise d'un peu loin, qui, devant témoin, court derrière deux cochons.
Jean-François Louette.
Je suis un porc, dit-il, je veux être un porc. Mais il ajoute, et il faut mettre ça en rapport avec cette photographie, « Dieu, s'il savait, serait un porc. » Il le dit dans Madame Edwarda. « Dieu, s'il savait, il place « savait » entre guillemets. Ça veut dire, si Dieu est du côté du savoir, alors il est limité, et du coup, il est aussi limité qu'un cochon. Le seul moyen d'échapper à la limitation, c'est de refuser les bornages et le cadastre qu'implique le savoir. D'où toute la thématique du non-savoir chez Bataille.
Bataille est un des auteurs, des écrivains qui reste passionnant parce qu'il ne contrôle pas tout ce qu'il écrit.
Francis Marmande.
La dissémination, elle concerne l'architecture de l'œuvre, mais la dilapidation des idées qui me passionne. Il y a des phrases que je ne comprends pas dans Bataille, mais il y a des phrases dont je suis certain qu'il ne les comprenait pas lui-même et cela me le rend vraiment attachant.
Bataille, cette œuvre est faite pour qu'on ne puisse rien lui opposer moralement. Ou même esthétiquement.
Michel Suria.
Il y a des choses incongrues, des choses gênantes, des choses choquantes. Si on s'y arrête, l'expérience de pensée qui est la sienne de bout en bout, nous la perdons de vue. Il y a un danger de lire Bataille, c'est évident. Tous me disaient que ça allait terrifier.
Les récits de Bataille ont été réunis dans un volume de la Pléiade. Alors, lorsqu'on lit ces récits dans la continuité, sans les interrompre par des écrits plus théoriques ou des articles de Bataille. C'est une expérience de lecture qui est, encore une fois, quand on s'immerge dans cette œuvre, tout de même assez commotionnante.
Au fond, Bataille est quelqu'un qui cherche à tout renverser. Son désir est celui d'une, d'une espèce de révolution généralisée, alors qui pense dans, sur différents domaines, érotiques, politiques et même cosmologiques. Et alors, cette volonté s'exprime avec à la fois une certaine simplicité et beaucoup d'énergie dans les textes littéraires, sans qu'on ait la difficulté de l'approche théorique, parce que les textes théoriques de Bataille ne sont pas toujours simples, eux. Là, il y a une espèce de facilité à entrer dans cet univers de l'amant chargé de sexualité et d'un romanesque assez particulier. Et puis, il y a une stratégie d'écriture de Bataille aussi qui est justement de jouer la multiplication de l'intensité grâce à la simplicité, hein, grâce à ce qu'il appelle la maigreur du récit. C'est-à-dire une espèce de constriction de la phrase qui fait que le contenu est d'autant plus explosif et l'effet d'autant plus impressionnant qu'il n'y a pas de recherche manifeste de l'effet littéraire. Mais il le pratique, ce jeu littéraire du plus par le moins, si l'on veut, il le pratique dès avant la guerre et dès Histoire de l'œil.
Oui, en même temps, Bataille disait qu'il souhaitait être vomi par ses lecteurs. Donc d'une certaine façon, il a réussi, non ?
Oui, ce mot que vous employez me fait penser à cette phrase du récit Le Mort, au sujet d'une héroïne, la belle héroïne qui se nomme Marie. Elle s'accroupit et chia sur le vomi. Alors évidemment, une telle phrase cherche à provoquer l'horreur. Il y a une recherche de l'horreur chez Bataille, mais il y a la recherche aussi d'une séduction de l'horrible et d'une séduction par l'horrible. Alors, ce n'est pas une œuvre qui nous laisse dans un confort. Hein. Un des maîtres mots de la réception de Bataille, c'est le malaise. Le malaise est la clé des plaisirs les plus grands, dit-il.
Dirty resta sur sa chaise, muette. Une longue minute se passa. On aurait pu entendre les cœurs battre à l'intérieur des corps. Je m'avançai jusqu'à la porte. Le visage barbouillé de sang, pâle et malade, j'avais des hoquets, prêts à vomir. Les domestiques terrifiés virent un filet d'eau couler le long de la chaise et des jambes de leur belle interlocutrice. L'urine forma une flaque qui s'agrandit sur le tapis, tandis qu'un bruit d'entrailles relâchées se produisait lourdement sous la robe de la jeune fille, révulsée, écarlate, et tordue sur sa chaise comme un porc sous un couteau.
Le choc de lecture, il est choc de lecture. Enfin, ou alors donc on s'en débarrasse en disant que Madame Edwarda c'est amphigourique et extravagant, ou que Histoire de l'œil c'est comme une espèce de petit récit avec des choses qui ont vieilli. Non, pour moi ça continue, et Le Bleu du ciel aussi, d'avoir un effet de violence de lecture.
Mais qu'est-ce qui vous a crucifié alors, Francis Marmande?
Ben, c'était de dire les choses telles de qu'elles de sont, d'une façon qui n'avait jamais été dite avant. Mais en même temps, Histoire de l'œil, c'est de ne pas pouvoir dépasser les trois premières pages, mais pour des effets réellement physiologiques. En fait, mais de quoi on parle en fait, c'est parce que la lecture me révulsait, parce que je comprenais toutes les phrases que je ne comprenais pas. Mais ne pas comprendre, c'est quand même mesurer exactement ce dont Bataille parle dans Le Pur Bonheur, c'est-à-dire le point de transgression.
Il lui faut absolument tout savoir, tout doit pouvoir être su. Il n'en doute pas, il a une très grande confiance dans le savoir. Mais le sachant, nous n'aurons jamais rien su que ce qui est juste au-delà. Et ce qui l'intéresse, c'est ce pas au-delà. C'est un titre de Blanchot, mais ce point au-delà. C'est la mysticité chez lui qui veut qu'il y ait toujours plus que ce qu'on sait. Et ce qu'on ne sait pas, ce qui ne se saura pas, ce non savoir, c'est l'impossible, effectivement. Et c'est le point qui l'éblouit. C'est le point de l'expérience, c'est le point de l'extase, c'est le point
de... C'est la mort aussi.
Il ne distingue jamais de la mort, en effet. De même qu'il ne le disjoint, il ne le disjoint jamais de la mort et il ne le disjoint jamais de l'érotisme.
À propos de l'expérience intérieure, Georges Bataille a déclaré ceci: « J'écris pour qui, entrant dans mon livre, y tomberait comme dans un trou, n'en sortirait plus. » Alors Bruno Maton, il y a une contagion de l'abîme à la lecture de Georges Bataille?
Oui, peut-être de l'abîme, mais aussi, je crois, de l'irrémédiable. Il y a un sentiment très fort de l'irrémédiable chez Bataille, dans la mesure où je pense qu'il est dominé par la conscience de la mortalité, lui-même. Et donc c'est ce qu'il voit partout et ce qu'il voit principalement dans l'homme, et c'est à partir de cette conscience de la mortalité qu'il a construit, je crois, une grande partie de son œuvre. La terreur chez Bataille, c'est une zone à traverser. C'est la zone que la mortalité appelle à vous. Et que si vous voulez traverser la mort, il faut traverser la terreur. Sinon, vous ne traversez pas la mort. Et sa Bataille l'avait parfaitement compris. Il n'est pas le seul. Hein, c'est pas par là qu'il est d'une exceptionnelle originalité. Mais c'est quand même d'une importance capitale, surtout en Occident, où c'est une chose qui est, je dirais, inconnue. Au fond, la pensée de Bataille, c'est aussi un agrandissement de la conscience par l'expérience mentale, du mental.
Savoir, c'est un des motifs majeurs de la pensée zen. Et Bataille a été extraordinairement sensible à ça. Et si dans le sur Nietzsche, il cite pendant des pages et des pages Suzuki, alors que personne s'en aperçoit, je ne comprends pas, je me demande ce que lisent les autres du sur Nietzsche. Ou si dans ses textes, il répand ce motif du non-savoir, c'est-à-dire de l'incontrôle de soi, effectivement, et de ce moment vertigineux où on fait le vide total en soi. Là, ça devient passionnant, tout de même, cette affaire-là. Ça, c'est toute une partie de la pensée orientale qu'on néglige, et pour Bataille, on la tient pour rien, ou on s'en moque.
J'oublie. Une fois de plus, la souffrance, le rire, le doigt, dépassement infini dans l'oubli, l'extase, l'indifférence à moi-même, à ce livre. Je vois ce que jamais le discours n'atteignit. Je suis ouvert, brèche béante, à l'inintelligible ciel, et tout en moi se précipite, s'accorde dans un désaccord dernier. Rupture de tout possible, baiser violent, rapt, perte dans l'entière absence du possible, dans la nuit opaque et morte, toutefois lumière, non moins inconnaissable, aveuglante que le fond du cœur.
Quelles ont été les premières images de la vie auxquelles a été confronté Georges Bataille? Il a dit « J'en suis sorti détraqué pour la vie », il a aussi écrit « Ce qui est arrivé me fait encore trembler ».
Ce sont des phrases de la fin de la vie, donc ce sont des phrases de la toute fin de la vie de Bataille, ce qui mesure à peu près la portée ou l'incidence, la longueur de l'incidence dans sa propre existence, dans sa propre constitution psychique, mentale et aussi intellectuelle. Les grandes images sont des images qu'on peut associer à l'histoire, par exemple à la guerre de 14 et au fait que son père, sa mère et lui se sont retrouvés à Reims, par exemple, au moment des grands bombardements et de la destruction de Reims. À ceci près que le père s'y retrouvait seul, que la mère et l'enfant, petit, l'ont, Bataille dira plus tard, abandonné à ce destin. Il n'est pas mort dans les bombardements, il n'est pas mort par le fait des bombardements, mais est mort dans la guerre quand même, et seul là-bas, dans un état a fortiori tragique, en plus ce mot-là, puisque Bataille l'emploie quand même beaucoup, puisqu'il était à la fois aveugle et infirme des membres inférieurs par le fait d'une maladie qui est une forme aggravée de la syphilis, si bien que son père ne l'a jamais vu. Une des obsessions de Bataille, quant à ce qu'il en est de voir, de l'œil, de la vision, de la représentation, il n'est pas excessif du tout, puisque Bataille lui-même l'a fait, de dire qu'il se l'est représenté comme un dieu déchu. Dieu, la figure paternelle, est souvent divinisée, en tout cas dans la prime enfance. Ce sont des généralités, mais intéressantes parce qu'elles sont immédiatement retournées. C'est un dieu déchu, c'est-à-dire sale, délirant, sale parce que la maladie rend le père incontinent, délirant parce que la maladie rend le malade délirant, donc avec des accès de furie, des accès de morbidité, tout. Voilà, cela dessine dans ses grandes lignes un premier destin, un destin enfantin, extrêmement sombre.
Mon éducation n'était pas une éducation de contrainte. Au contraire, c'était plutôt une éducation de délaissement. Enfin, mes parents ne s'occupaient pas beaucoup de moi. Et dans cet ennui, je souffrais d'être seul. Je me rappelle très bien de des heures passées dans la pénombre qui étaient vraiment parmi les plus pénibles de ma vie depuis
lors. Vous n'avez pas de frères et de sœurs, n'est-ce pas ?
J'avais un frère qui avait 7 ans de plus que moi. Mon père était aveugle, ma mère n'en était pas réjouie. La maison était très triste. Il arrivait que mon père reste dans la pénombre, puisque allumer une lumière n'avait pas de sens pour lui. Si personne d'autre n'était là que moi, personne n'allumait de lampe. Et je restais là, je me rappelle, dans un état de prostration et de dégoût même, très profond.
Vous deviez, étant petit enfant, avoir l'impression que votre père ne pouvait pas se proposer, lui, un but défini dans la vie. Car un aveugle, c'est quelqu'un qui est séparé du monde extérieur, qui est obligé de marcher à tâtons.
Mon père ne marchait pas à tâtons pour la bonne raison, parce qu'il était aussi paralytique. Et évidemment, ceci charge les choses dans le sens que vous dites, encore que lui faisait beaucoup de projets, il croyait toujours guérir.
Un être nauséabond,
oui,
dira Bataille de son père.
C'est l'un des traits de Bataille, c'est qu'il ne répugne pas, justement, à employer les mots les plus crus pour désigner des scènes que la discrétion aurait pu taire. L'une des grandes indignités de Bataille, c'est de ne reculer devant aucune indiscrétion. Toute cette œuvre est marquée par ça. Et sans doute, le caractère nauséabond du père a-t-il une incidence extrêmement forte sur le coup qu'il montrera pour ce qui est généralement représenté ou considéré ou regardé comme indigne, sale, obscène, nauséabond. Ce qui sera étonnant, c'est qu'il inversera les polarités. Là où tout le monde continuera de qualifier ces choses-là d'indignes, lui leur conférera une dignité paradoxale, une dignité sans doute intenable, mais tout ce qui tiendra lieu de représentation sexuelle chez Bataille, très surabondante, très forte, très constitutive de cette œuvre, qui la signale même comme différente des autres qui sont contemporaines, la saleté sexuelle chez Bataille est tout de même paradoxalement une valorisation. Presque n'importe qui à sa place aurait tenté de fuir, se détourner. Enfin, il ne faut pas se détourner le regard, ça c'est une des grandes injonctions de Bataille. Il faut voir, tout voir.
Ne rien éluder.
Il y a le fameux commandement de Sade qu'il reprendra et qu'il modifiera à peine. C'est la philosophie doit tout dire, à quelque point qu'en frémissent les hommes. Il y a bien évidemment une obéissance à cette injonction chez Bataille, à laquelle il ajoute vite, et la littérature doit tout voir à quelque point qu'on en frémisse.
Diego Masson, quel est votre lien de parenté avec Georges Bataille ?
Alors, Bataille était le mari de la sœur de ma mère.
Donc de Sylvia.
Sylvia Bataille, enfin Sylvia Maclès au départ. Et Bataille s'est marié avec elle en 28. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où je suis né, moi, en 35, Bataille était mon oncle. Et je crois qu'ils se sont séparés au milieu des années 30, 35, 36, par là. Mais ils sont restés en très bon terme. Moi, j'ai habité chez ma tante qui, après la guerre, vivait avec Jacques Lacan. Et Bataille venait souvent déjeuner. Et Bataille aussi venait le soir et avec Lacan, il pouvait discuter jusqu'à 4 heures du matin en buvant du whisky. Car Bataille a toujours été un grand buveur. Mon père aussi était un grand buveur. Mon père buvait énormément, mais lorsque Bataille venait voir mes parents, ils buvaient tous les deux des quantités absolument invraisemblables.
Votre père André Masson.
Mon père, André Masson, oui. D'ailleurs, ma mère, elle n'aimait pas du tout Bataille à cause de ça, parce que non seulement, quand Bataille venait voir mon père, il buvait encore beaucoup plus que d'habitude, ce qui était déjà considérable, mais en plus, par exemple, quand il venait voir mon père à Tossa, où je suis né, Tossa des Mars, en Catalogne, il emmenait mon père au bordel à Barcelone, ce que ma mère n'appréciait pas du tout. Bien que, vous savez, à l'époque, les bordels n'étaient pas un endroit où on consommait obligatoirement, hein. Je sais que Bataille emmenait ma tante Sylvia quand elle était toute jeune, puisqu'ils sont mariés, elle avait 19 ans. Il l'emmenait aussi au bordel. On pouvait aller au bordel pour passer, comme on va au bistrot maintenant, disons. Enfin, ceci dit, Bataille n'allait pas au bordel seulement pour boire. Voilà, ça faisait partie de sa vie. Et donc ma mère n'a vraiment pas vraiment aimé Bataille. Je crois même qu'elle l'a détesté. Oui. C'est curieux parce que c'est un type qui allait dans des tripots, qui jouait aux cartes, quand il était jeune en tout cas, et qui en même temps était toujours impeccablement habillé, très propre, très doux. C'était un type d'une grande gentillesse, d'une grande civilité. Et il y avait comme une contradiction complète.
Dans la vie extrêmement banale et quotidienne, il était l'exemple même de la courtoisie, de l'application professionnelle et de toutes sortes de choses qui sont attestées. J'y insiste parce que dans ce livre que j'ai intitulé « Le pur bonheur », je rappelle longuement que Bataille était d'un bout à l'autre de sa vie conservateur, chartiste, ce qui n'est pas rien, et en activité. Alors que s'est installée l'image d'une sorte d'écrivain stratosphérique qui serait là, employé à la gloire de l'écriture et à l'empirer des idées, pas du tout. Il s'est battu toute la vie avec des histoires d'argent, avec des histoires de carrière, avec des histoires de régression de carrière qui l'ont beaucoup affecté, à des histoires de changement de poste, à des déplacements, à des épisodes d'absence pour maladie. Et en 1962, au mois de juillet, lorsqu'il meurt de façon annoncée, mais aussi de façon précipitée, il est enfin réintégré à la Bibliothèque nationale et c'est pour lui un sujet au moins de confort, être à Paris et pouvoir retrouver le lieu d'exercice de son travail des débuts.
Certains l'appelaient Monseigneur.
Et voilà, exactement, une espèce de curé laïque, si on veut, mais plus que de curé, d'évêque laïque, qui en imposait. Breton s'est même moqué de lui un peu méchamment, en disant que c'était un acide bibliothèque. Donc, au fond, il y avait une apparence de paix et de calme, et à l'intérieur de lui, cette extrême tension.
1914. Georges Bataille, qui a été élevé par des parents athées, se convertit au catholicisme. 1917-1918, année de séminaire. Cette conversion sera de courte durée. Très vite, Bataille passe de l'église au bordel.
Nietzsche est toujours dans le même sens.
Georges Bataille.
Il proteste contre l'assignation d'un but aux choses, l'assignation d'un but au monde. Pour lui, le monde n'a pas de but et par conséquent, qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est de rire de ce qu'il est. Mais de rire d'un rire définitif, de rire, on ne peut pas rire du monde comme d'une réalité par rapport à laquelle on se sent supérieur, mais d'une réalité devant laquelle, au contraire, on sent sa petitesse, et par conséquent, le rire, dans les conditions nietzschéennes, est un rire tragique. Il n'y a aucune possibilité de rire à partir de la connaissance de Nietzsche sans aller jusqu'au bout des possibilités du rire. C'est-à-dire de rire tragiquement, de rire comme on rirait devant un crucifix.
Dans Histoire de l'œil, il y a un passage qui est assez insoutenable, qui est celui de la mise à mort du curé. C'est un passage qui a une atmosphère de messe noire.
Oui, absolument, c'est une messe noire.
Jean-François Louette.
Bataille avait d'ailleurs lu avec beaucoup d'intérêt Huysmans, hein, et il avait beaucoup plus d'intérêt pour le dernier Huysmans, c'est-à-dire le Huysmans du catholicisme assez sulfureux, bref, le Huysmans d'un roman comme Là-bas, le Huysmans satanique, si on veut. Et alors, cette page d'Histoire de l'œil, c'est une page qui manifeste exactement ce que veut faire Bataille, c'est-à-dire tout renverser. Vous vous souvenez des détails, on voit ce pauvre curé qui est ligoté, le texte dit pris dans un étau, hein, par les acolytes que sont Sire Edmond, l'anglais, et puis le narrateur, avant que Simone ne monte sur lui et ne serre sa gorge, à la fois pour le faire bonder et pour l'étrangler. Alors, tout de suite, on comprend que cet étau a une valeur symbolique, c'est le renversement de l'étau qu'aux yeux de Bataille et la religion catholique dans son ensemble. Et de même que si ce prêtre meurt étranglé, c'est, le texte dit aussi garrotté, c'est parce qu'il s'agit de renverser le mode espagnol d'exécution publique, de lui infliger la mort par le garrot. Voilà, il faut renverser à la fois une forme de pouvoir civique, une forme de pouvoir religieux et... une espèce d'image reçue qui fait du prêtre l'homme pur et l'homme chaste. Oui, c'est pas une page qui laisse sans impression de malaise. Mais en même temps, c'est le genre de page qui fait songer aussi à cette critique que formulait Gilles Deleuze, par exemple. Pourquoi toujours des curés chez Bataille ? Y a toujours une soutane qui traîne dans un coin.
Écoutez sereinement, dit-elle. Il faut me donner l'œil, tout de suite, arrachez-le. Sereinement ne tressaillit pas, mais prit dans un portefeuille une paire de ciseaux, s'agenouilla et découpa les chairs. Puis il enfonça les doigts dans l'orbite et tira l'œil, coupant les ligaments tendus. Il mit le petit globe blanc dans la main de mon amie. Elle regarda l'extravagance, visiblement gênée, mais n'eut pas d'hésitation. Se caressant les jambes, elle y glissa l'œil. La caresse de l'œil sur la peau est d'une excessive douceur, avec un horrible côté cri de coq. Simone, cependant, s'amusait, glissait l'œil dans la fente des fesses. Elle tenta d'immobiliser le globe en serrant les fesses, mais il en jaillit, comme un noyau des doigts, et retomba sur le ventre du mort.
Ça vous fait peur ? Moi aussi. Lui, l'histoire de l'œil, il était convaincu. Il a écrit qu'il avait brûlé un autre petit livre qui était d'une gaieté moins juvénile que celle de Histoire de l'œil. Moi, j'ai jamais lu Histoire de l'œil comme d'une gaieté juvénile.
Pourquoi ne l'a-t-il pas signé ?
Il avait une fonction officielle assez importante, conservateur, cabinet des médailles. Ça ne plaisantait pas avec ces histoires-là. Il a entretenu cette espèce de mystère jusqu'à sa mort, en plus. Et Jean-Jacques Pauvert raconte que lorsque Pauvert fait des contrefaçons, et il fait de l'histoire de l'œil rue Grégoire de Tours au sixième étage en faisant de la photocopie, et il entend un pas assez lourd montant dans l'escalier un jour, et puis ce monsieur extraordinaire, enfin ce monsieur il avait 60 ans, mais extrêmement bien vêtu, beaucoup de distinction et qui lui dit un peu là, j'aimerais, je sais que Histoire de l'œil circule, c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai lu à quelques mois près, j'aimerais bien toucher un peu d'argent qui me revient là-dessus. Et Pauvert, qui a 40 ans de moins que lui, lui a dit, mais signez-le, moi je ferai l'éditeur à ce moment-là.
Le premier ouvrage que j'ai connu de vous s'appelait Histoire de l'œil.
Cet ouvrage est un ouvrage anonyme.
Oui, mais enfin, je crois me rappeler que c'est par vous que je l'ai connu.
C'est cela.
La mort elle-même était de la fête, en ceci que la nudité du bordel appelle le couteau du boucher.
Quand il dira plus tard qu'il faut lire l'expérience intérieure en regard de Madame Edouarda, et pas l'un sans l'autre, il donne une clé, certainement. Il dit, Madame Edouarda est la clé lubrique de l'expérience intérieure. Et tout ce qui...
Madame Edouarda, il faut peut-être expliquer le
c'est
thème.
C'est un très court, très court récit érotique, l'un des plus beaux qui ait été écrit pendant la guerre, la seconde guerre cette fois-ci. Un récit minimaliste d'un coït dans un bordel et aux à côté d'un bordel, dans un taxi. On ne peut pas faire moins comme séquence narrative. Or, cette séquence narrative devient lestée d'un poids religieux, parce que les référents religieux sont explicites dans le livre.
Il dit que Madame Edouarda est Dieu.
Oui, oui. Après qu'elle lui enjoint de regarder ses guenilles, ce qui est son sexe, quoi. Et il voit Dieu là. C'est un livre, effectivement, dont l'incipit est de Hegel. Donc, des défaussements, des boitements très étranges dans la littérature. À la fois, la plus grande obscénité, c'est un texte obscène, mais aussi, c'est un texte de philosophe. C'est un texte de mystique. C'est quelqu'un qui prête à cette séquence expérientielle une teneur de vérité tout à fait équivalente, c'est ce à quoi il pense à l'époque, aux visions de Jean de la Croix ou de Thérèse d'Avila ou d'Angèle de Foligno, pour laquelle il avait une tendresse particulière. Il souillera ainsi des grands référents chrétiens.
André Masson.
J'ai pratiquement vécu ce que raconte Madame Edouarda avec Bataille. La vie avec Bataille consistait précisément à des expériences très extraordinaires, généralement nocturnes, et qui allaient très loin dans le sens du non-conformisme et d'une certaine provocation érotique. Nous allions ensemble dans des lieux supposés tolérés, nous avions des activités qui tendaient à se rapprocher d'une sorte de rituel, un rituel qui n'aurait pas eu de règle absolue, mais enfin qui était un peu conçu comme tel, c'est-à-dire que ce n'était pas un érotisme banal, mais ritualisé. Et ce que Bataille raconte dans Madame Edouarda n'est pas au-dessous de cette réalité que nous avons pu vivre ensemble. On peut dire que c'est réaliste.
Bruno Maton, vous qui êtes peintre, si vous preniez un fusain et si on vous disait d'évoquer Bataille, quelle forme, quelle couleur vous choisiriez ?
Bien sûr, je prendrais ce qu'on appelle la pierre noire à cause de son nom et je ferais un dessin. J'essaierais de créer la forme d'une ombre, la forme de l'ombre elle-même. Oui. Parce que chez Bataille, l'ombre est gigantesque. Mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Mais c'est une ombre, c'est comme un nuage. L'ombre est comme un nuage méphitique, comme un nuage toxique. Vous savez, un nuage de gaz toxique qui vous empoisonne. Vous étouffe, vous asphyxie. Il y a une asphyxie dans sa littérature. C'est quand même très fort, très très fort.
Bataille se sert de la figure de Lucifer plusieurs fois dans les textes qui sont encore les moins sollicités de lui.
Francis Marmande.
Et qui sont relativement loin et incroyablement proches de ceux dont nous sommes en train de parler. C'est-à-dire les textes que j'ai édités pour les deux derniers tomes des œuvres complètes chez Gallimard. Ces textes sont des articles. Et c'est à chaque ligne qu'il se passe une chose, c'est à chaque ligne. Et il y a deux tomes in octavo, avec les grands formats de chez Gallimard, de 800 pages, avec une espèce d'intelligence qui va dans toutes les directions. Mais dans toutes les directions, mais c'est insensé, c'est la préhistoire, l'art, la politique, le mensonge politique, l'érotisme, la lecture de Hemingway, l'esprit encyclopédique. Bizarrement, pour celui qui est tenu pour un débauché professionnel, non, c'était quelque chose tout de même. Et dans ces textes, il y a très souvent un recours alors à la figure qui n'est pas satanique, qui n'est pas diabolique, mais qui est luciférienne. Lucifer, c'est celui qui est l'ange rebelle. Et je pense qu'un des très grands écrivains du XXe siècle qui nous ait désigné la présence et la figure du mal, c'est Bataille. Oui. Or, toute perspective théologique, ce qui est quand même pas rien.
Bataille était un homme enragé. Il joue d'ailleurs sur le côté chien enragé, avec quelques allusions au cynisme antique.
Jean-François Louet.
Et bien sûr à l'animalité qui refuse de se laisser enfermer dans la prison de la rationalité ou la prison de la société bourgeoise.
Mais on pourrait presque donner comme point de départ à la pensée de Bataille sa vision de la grotte de Lascaux, lorsqu'il considère que ces peintures rupestres sont les premières manifestations de la sortie de l'homme de l'animalité. Et animalité qui perdure en lui et qu'il va regretter aussi, dont il va avoir la nostalgie toute sa vie.
Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que, au fond, qu'est-ce que c'est que la vie de Bataille ? C'est la vie d'un homme qui a voulu être à la fois plus et moins qu'un homme, c'est-à-dire retrouver une forme d'animalité bienheureuse, dit-il. Mais bienheureuse, c'est important, parce que le pur bonheur implique justement une forme de dépassement de l'animalité. Mais pour en revenir à ce que vous disiez de Lascaux, il me semble important de comprendre que quand Bataille se tourne vers la préhistoire, ça répond à plusieurs désirs. Un certain désir de savoir de l'origine, un certain désir de savoir de l'art primitif aussi. Il s'y était intéressé dès avant la guerre. Mais ça répond aussi à un désir, enfin plutôt à une considération stratégique à mon avis. C'est-à-dire que Bataille a vite vu qu'on pouvait lui objecter sa proximité avec le christianisme. Et il a vite vu notamment qu'on pouvait lui dire, bon, toute votre pensée de l'érotisme est une pensée qui suppose la honte. La honte est conviée, dit-il. La honte est un facteur de multiplication de la jouissance. Alors, la stratégie de Bataille consiste à dire, non, attention, la honte n'est pas liée au christianisme. La honte est liée au passage de l'animalité à l'humanité. Et on va voir comment les hommes préhistoriques posent des interdits qu'ils savent ne pouvoir transgresser que dans la honte, avant même que le christianisme n'existe, bien avant que le christianisme n'existe.
Bataille est un archaïque.
Ah oui, on pourrait dire ça. Bataille est un archaïque, sa mâchoire archaïque, sa mâchoire animale, son identification au porc. Hein. Mais en même temps, c'est un archaïque qui a conscience de ce que la civilisation archaïque peut nous permettre de penser de notre civilisation moderne.
La mort parachève un caractère de transgression qui est le propre de l'animal. La victime meurt. Alors les assistants participent d'un élément que révèle sa mort. Cet élément est ce qu'il est possible de nommer avec les historiens des religions, le sacré. Le sacré est justement la continuité de l'être, révélé à ceux qui fixent leur attention, dans un rite solennel, sur la mort d'un être discontinu. Il y a, du fait de la mort violente, rupture de la discontinuité d'un être. Ce qui subsiste, et que dans le silence qui tombe éprouve des esprits anxieux, et la continuité de l'être à laquelle est rendue la victime.
Une autre civilisation qui a beaucoup attiré Bataille, c'est la civilisation aztèque. De là part tout son concept du sacrifice, comme faisant le lien de la communauté.
Oui, la civilisation aztèque, c'est une civilisation sacrificielle. C'est aussi une civilisation qui croit en un dieu solaire. Bataille disait un jour, au fond, le seul véritable objet de la littérature, c'est le soleil.
Et, il a dit aussi, je suis le soleil.
Oui, et il a dit encore, les hommes sont trop peu soleil. Les hommes sont trop peu soleil. C'est une très belle phrase, je trouve, qui se lit dans Le Coupable, en 1944. Alors, bon, le soleil, ce qui l'intéresse dans le soleil, c'est précisément la dépense sans retour. Le soleil se dépense à ne pas s'accroître de ses dons, pour paraphraser Valérie, à ne pas s'accroître de ses dons. Il donne sans jamais rien recevoir. Et il donne dans la chaleur, l'intensité, le surplus, l'excédent, l'excès. Alors, ce que Bataille voit comme intérêt à la civilisation aztèque, c'est encore une fois de nous faire sortir de notre monde catholique et d'arriver à penser d'autres formes de sacré. La civilisation aztèque, c'est une civilisation qu'il dit être une civilisation de, non pas de consommation, évidemment, mais de consumation, c'est-à-dire de dépenses poussées jusqu'à l'extrême.
Dans le livre qui paraîtra en octobre, Sainteté de Bataille, je fais de lui un portrait qui corrige légèrement celui de la biographie, ou qui...
La mort à l'œuvre.
La mort à l'œuvre, ou qui intensifie un trait que j'avais voulu écarter. C'est celui sans doute de ce qui le constitue comme fou lui-même, en fait, cette grande séduction qu'opère la folie sur lui. Et lisant attentivement, par exemple, les grands moments où il a laissé libre cours à sa tentation folle, par exemple à Céphale, j'ai reconsidéré les choses et tout ce qui pourrait ressortir de la folie devient intéressant de ce point de vue-là. Et quand tout à l'heure nous envisagions la possibilité de voir tout, à quelque point qu'on puisse ou doive en frémir, il y a cette idée, par exemple, qui s'est constituée chez lui dans sa première œuvre, enfin dans ses premières œuvres, dans le premier temps de son œuvre, qui est par exemple de l'existence d'un œil dont nous aurions tous disposé au sommet du crâne.
L'œil pinéal.
L'œil pinéal, et qui nous permettrait de voir le soleil à la verticale. Idée délirante, si on veut. Il s'agit de voir la nuit à travers le soleil. Il s'agit de voir le soleil même comme nuit. Il s'agit de voir l'entraille, l'intestin, l'entraille, ce qu'il appelle aussi le petit dans l'anatomie féminine. Tout ce qui est lié à ce qui se dérobe à la vue. voir, en jouir, le penser, bien sûr.
Nous sommes tombés sur le sol meuble et je m'enfonçais dans son corps humide comme une charrue bien manœuvrée s'enfonce dans la terre. La terre sous ce corps était ouverte comme une tombe. Son ventre nu s'ouvrit à moi comme une tombe fraîche. Nous étions frappés de stupeur, faisant l'amour au-dessus d'un cimetière étoilé. Il faisait froid. Mes mains s'enfonçaient dans la terre. Nos corps tremblaient, comme deux rangées de dents claquent l'une dans l'autre.
Je peux vous raconter, parce qu'un jour je suis tombé, j'avais 21 ans, je venais d'arriver à Paris.
Bruno Maton.
Et je suis tombé sur un petit livre bleu ciel, qui s'appelait « Le bleu du ciel ». Et j'ai lu ce livre que j'ai trouvé incroyable, et d'un enlisement intérieur extraordinaire. Un enlisement intérieur, comme si ces gens s'enfonçaient dans des sables mouvants. J'ai trouvé ce texte extraordinaire, après j'en ai lu plein d'autres. Ça a été une révélation, parce que je voyais bien qu'il y avait, si vous voulez, quelque chose dans cette création romanesque, si elle était vraiment romanesque, parce que j'aime beaucoup ce genre de texte qui est à la limite entre le roman et le récit, qui n'est pas l'autobiographie romancée, qui est autre chose. Bataille, c'est autre chose. Il a créé un genre à lui-même, comme Breton a créé un genre aussi de livre. Bon, et à l'intérieur de ce livre, il y avait une écriture qui participait directement d'une sorte de geste d'enlisement, comme je le disais précédemment. C'est-à-dire que l'écriture enlisait par elle-même le lecteur, voyez. Et je me suis dit, ça c'est du grand art, aucun doute.
Alors, vous voyez dans Le Bleu du Ciel, Francis Marmande, le rêve d'un réel sans temporalité. Et vous considérez aussi que c'est le récit de ce qui se passe dans une tête malade, qui est celle de Tropman, l'assassin. Oui.
Tropman est un guillotiné, la figure de l'acéphale chez Bataille est importante, la tête du roi coupée, etc. Et jusqu'à des années relativement récentes, une des graves questions qui a escorté celle de l'abominable guillotine, c'était de savoir si la tête qui tombait continuait de penser. Donc, je suis allé plus loin dans l'hypothèse sur Le Bleu du Ciel, c'était que ce n'était pas seulement ce qui pouvait se produire dans la tête malade d'un corps en désarroi, mais peut-être que c'était ce qui se produisait de façon instantanée dans la tête d'un guillotiné.
C'est une hypothèse qui aurait plu à Bataille.
Bah, je pense qu'il l'a formulée, sinon il n'aurait pas appelé son personnage Tropman, qui était le nom d'un des plus célèbres guillotinés de son époque à lui.
Qui avait tué 6 personnes.
Oui.
Une famille entière et 2 enfants. Oui. Oui.
8 peut-être.
Ah, peut-être 8. Oui, peut-être 6 enfants, et 6 enfants, oui. et les 2 parents.
Ben oui.
Pourquoi le choisir?
Voilà, pourquoi le choisir comme pseudonyme, oui, d'un personnage, oui. Donc, sans doute pour ce lien avec l'abomination du crime, avec la décollation, avec tout ce qu'on voudra. Mais je n'ai pas à le dire, c'est un des plus grands récits du XXe siècle, tout genre confondu. Alors, moi, je m'en sortirais mieux avec Le Bleu du Ciel si à chaque lecture, je ne découvrais pas un continent que j'avais l'impression de n'avoir jamais traversé jusque-là. Y compris les phrases que j'ai labourées les unes après les autres, y compris les paragraphes que j'ai recopiés.
Qu'avez-vous découvert à chaque nouvelle lecture, Francis Marmande?
Alors, à chaque nouvelle lecture, ce que je n'avais pas vu avant, mais à chaque nouvelle lecture aussi, le fonctionnement abyssal, c'est-à-dire extraordinairement débloqué, comme on dit qu'on débloque, oui, du récit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une intrigue ficelée de telle façon qu'elle soit mémorisable facilement et avec un certain nombre de phrases jonchées ici et là, ou d'enchaînements de phrases. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur deux étapes, c'est-à-dire le manuscrit qui Bataille avait en 1934 et qu'il n'avait pas publié, 35 pardon, qu'il n'avait pas publié, et puis celui qui a été publié, le texte qui a été publié, pardon, en 1957. Et en 1957, je me suis rendu compte que Bataille avait, dans la relecture de son manuscrit de 35, il a déréglé en relisant des phrases. C'est-à-dire, elles étaient sur le premier manuscrit, plus syntaxique au sens grammatical un peu archaïque du terme, plus régulière, plus construite, plus... et il les casse ou il les tord ou il les brise ou il les distord ou il les modifie de telle façon qu'elle donne un son encore plus fêlé que dans le premier texte. Ça m'a intéressé évidemment. C'est-à-dire quel est ce travail qui, au lieu de, entre guillemets, peaufiner, améliorer, épiler, éclaircir, etc., éclaircir, donne une torsion telle que ça devienne ce texte que nous appelons le bleu du ciel. Il n'y a pas un texte arrêté.
Mais c'est une écriture sans fin.
Eh oui. Oui. Il y a une phrase dans Le Pur Bonheur, le texte qui s'appelle Le Pur Bonheur, qui est, puisque c'est un mot qui lui est très souvent attribué, la transgression, c'est l'inachèvement.
Sur le plan politique, je réclame l'irresponsabilité des fous.
On peut dire en deux mots, vite, le rapprochement, enfin l'impossibilité de quelque rapprochement que ce soit avec les surréalistes.
Michel Suria.
Quand ses propres amis, comme Michel Léris par exemple, très cher ami, André Masson, très cher ami, eux rallient le surréalisme, ils regardent immédiatement Breton comme étant l'ennemi par excellence. Non sans convoiter son pouvoir, non sans désirer avoir un pouvoir identique. Ils se réconcilient avec lui après des phases de très grande violence, puisqu'il arrachera un certain nombre de ses amis surréalistes.
Vous écrivez d'ailleurs que Bataille a charogné les idées du surréalisme.
Oui. Il y trouvait que le surréalisme était un idéalisme, contrairement à tout ce que lui-même pouvait dire de lui-même. Il n'a eu de cesse de montrer la fausseté du surréalisme en soi, ça c'est avant la guerre, et de convaincre ceux qui s'étaient ralliés au surréalisme de revenir vers lui. Et il crée pour cela une revue qui s'appelle Document, qui est une revue tout à fait magnifique d'ailleurs. Enfin, c'est pas la sienne, il ne la dirige pas en nom, en titre, mais il la dirige en fait. Et beaucoup de ceux qui quittent le surréalisme à ce moment-là le rejoignent là. Et il produit une toute autre représentation. On peut véritablement opposer la représentation de Document par Bataille et ses amis, et notamment des artistes. Il y a Boiffard comme photographe, etc. Des noms très importants. Et ce que le surréalisme a représenté aux yeux de Bataille comme étant un idéalisme supplémentaire. Et il faut que les événements politiques des années 30 soient tels, prennent cet aspect-là, tragique. Bataille est le premier qui pense vraiment cela, en 33, avec un texte essentiel et à mes yeux admirable, qui est la structure psychologique du fascisme. Et à ce moment-là, à peu près tout le monde reconnaît que Bataille est celui qui voit, pense, anticipe ce que le fascisme est et sera. Et une réunion des deux groupes, du groupe, toujours fidèle à Breton, et du groupe dissident, fractionniste, rallié à Bataille, vont constituer un groupe homogène, plein de dissonances et plein de mésalliances, qui s'appelle Contre-attaque, qui est la dernière offensive révolutionnaire d'intellectuels d'extrême-gauche français, qui ne sont pour aucun d'entre eux communistes ou staliniens, très important, et tous, résolument, décisivement antifascistes.
Et alors après, donc, Contre-attaque, il va y avoir la création d'Acéphale. Alors, Acéphale, il y a deux versants d'Acéphale. D'une part, la revue, et d'autre part, la société secrète.
En avril 1936, Bataille a élaboré chez André Masson, en Espagne, à Tossa del Mar, un pré-programme, et il y a écrit son premier article, La conjuration sacrée.
Odile Felgine.
Donc, son texte va être publié dans le premier numéro d'Acéphale, en juin 1936, avec le texte de Pierre Klossowski, qui sera intitulé « Le monstre ». C'est un texte de Bataille qui appelle au surgissement d'un homme acéphale, l'homme sans tête, d'un monstre, comme il dit, libre et heureux, libre et innocent, fanatique, bien sûr. Alors, il est peut-être important de parler de la couverture de Acéphale, dessinée par Masson, inspirée d'un dessin de Léonard de Vinci. Masson dessine un homme, les jambes écartées, puissant, vigoureux, musclé, tenant dans sa main gauche une dague, dans sa main droite une grenade en feu comme un Sacré-Cœur, et son ventre est constitué de viscères comme un labyrinthe. Sa tête est coupée et à la place de son sexe, il y a la tête coupée, la tête de mort. Donc c'est bien un résumé de ce qu'entend exalter Bataille, qui va dire « nous sommes profondément religieux, mais au sens païen, antichrétien ». Il ne faut pas oublier, c'est très important pour comprendre ce Bataille militant de 1932 à 1939, que Bataille considère que l'ennemi a trois têtes, comme il dit, c'est un hydre à trois têtes, qui sont constituées, ces choses à abattre, du christianisme, du socialisme stalinien et du fascisme. Il y a trois ennemis pour lui, dit-il.
Et alors on voilà. peut le combattre comment ?
Par l'irruption du primitif, entre guillemets, du frénétique, de l'extase. Il est temps d'abandonner le monde des civilisations et sa lumière, dit-il. À propos de l'extase, il dit « se priver de celle-ci, c'est être incomplet ». Il veut donc un homme qui ne soit ni homme ni Dieu, qui soit un monstre innocent et libre, qui soit frénétique.
L'image voilà. de la souveraineté.
Voilà.
Plus de tête, plus de capoute, plus de chef, plus de principe d'autorité. C'est une politique sans État et une politique sans direction, la politique bataillienne. Il renverse le contenu de la notion de souveraineté. C'est-à-dire que pour lui, la souveraineté se confond avec la perte. La souveraineté n'est pas du côté de la maîtrise, elle n'est pas du côté de la domination, elle est du côté de la perte de contrôle, de la perte de conscience. Chacun est libre de devenir à son tour le souverain, c'est-à-dire de devenir à son tour Dieu. Mais justement, ce qui est intéressant chez Bataille, c'est qu'il ne défend pas du tout une autodivinisation triomphante du sujet. Non, il y a une espèce d'autodivinisation du sujet à condition qu'il aille jusqu'au fond de l'abjection. C'est ça la souveraineté.
Ce que nous avons entrepris ne doit être confondu avec rien d'autre. Ne peut pas être limité à l'expression d'une pensée, et encore moins à ce qui est justement considéré comme art. Nous sommes farouchement religieux, et dans la mesure où notre existence est la condamnation de tout ce qui est reconnu aujourd'hui, une exigence intérieure veut que nous soyons également impérieux. Ce que nous entreprenons est une guerre.
La société secrète d'Acéphale se réunissait dans la forêt de Marly sous un arbre foudroyé et il y avait certains rituels.
Oui, alors Bataille, dans son exaltation, il l'a reconnu plus tard, il était extrêmement exalté à l'époque, veut fonder, comme il le dit, une religion qui sera une communauté d'hommes sans communauté, qui sera dotée de rites et qui aura sa sacralité. Bataille avait demandé le secret. Bataille était sans doute inspiré par Mauss, son manuel d'ethnographie, inspiré par les rituels sacrés des sociétés secrètes africaines, notamment. Il a voulu un rite de fondation, en quelque sorte, un rite qui unit tous les conjurés dans une espèce de vertige extrême qui serait celui de la mort, qui serait celui de la fin. Donc, il a imaginé que en face, vers la fin de cette société, c'est-à-dire en 1939, un sacrifice humain.
Alors quant à Acéphale, ce grand projet que vous pouvez qualifier d'occultiste, pourquoi pas après tout, s'il y a été question de sacrifice jusqu'au bout, et c'est là la folie d'Acéphale, il faut se représenter que Bataille l'a joué ou mis en jeu jusqu'au point qu'il s'est proposé lui-même au sacrifice de ses amis. Donc il s'agissait de sa propre immolation pour finir. Et peut-être dans un surcroît délirant qui consisterait à penser que cette religion qui était impuissant à fonder vivant, sa mort la fonderait. C'est un délire. On est quand même à l'article de la guerre. Il oppose au déchaînement de violence fasciste un retour sur soi tout à fait étrange.
Tous ces gens provoqués pour secouer le cocotier, pour que les fruits tombent, pour que les gens se réveillent, pour aussi que le monde change. Je suis sûr que tous ces gens trouvaient insupportable la manière dont on vivait. Dont on vivait l'amour, dont on vivait la vie quotidienne, la suggestion, la soumission au travail, tout ça, lui, c'est la dépense. Quand il dit « je veux que mon lecteur vomisse mes textes », je ne sais plus c'est, quelle est exactement l'expression, c'est une manière de dire « je vous empoisonne ». Je vous empoisonne, mais vous allez vomir dehors ce que j'ai fait et continuer à mettre justement quelque chose dans le monde que le monde ne peut pas digérer. Ce poison qui fera que le monde pourrira et changera. C'est une pensée extrêmement destructrice, offensive, neuve aussi. C'est une pensée courant d'air. C'est porte-claque, comme disait, je ne sais plus, c'est Breton d'ailleurs, qui disait ça. Quand on lit Bataille, il y a un courant d'air, un coup de vent incroyable.
Francis Marmande, Le pur bonheur.
C'est un titre dont il prévoyait de faire le titre d'un ensemble qui aurait regroupé nombre de ses œuvres. Je crois qu'il était à ce point conscient de sa dissémination et de sa perte authentique, c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à construire une œuvre, un édifice, pour être inquiet à la fin de cette dispersion même. Choisir comme titre Le pur bonheur à quelques mois de sa mort, ça a un sens. C'est une notion de bonheur qui m'intéresse d'une part parce qu'elle est très contradictoire avec l'image que l'on se fait de Bataille, oui. D'autre part, parce qu'elle ne répond pas à un certain nombre d'injonctions que l'on peut lire dans son œuvre, ou son œuvre en miettes, comme dramatisée, noircie coupable. C'est d'autre chose qu'il s'agit.
Mais de quel bonheur s'agit-il précisément?
Oui, de quel bonheur s'agit-il, comme si je le savais, moi. Peut-être de l'acceptation de la vie telle qu'elle est, ce qui est déjà pas rien. Quand, au début de l'érotisme, cette phrase « l'érotisme, c'est l'approbation de la vie jusque dans la mort », le mieux qu'on trouve, parce que c'est quand même le plus commode, c'est ce qui arrange le mieux en tout cas, c'est de dire, voilà, c'est morbide, c'est cette espèce de vie comme les baroques l'avaient conçue, avec les squelettes et les... Non, ça n'est pas ça, mais pas ça du tout. C'est simplement, si on se met en face de la vie, comme on peut se mettre en face d'un taureau, comme on peut mettre en face d'un amour, c'est la mort comprise, sinon de quoi on parle? Enfin, c'est une réponse à l'ordre et au désordre, oui, au désordre plutôt, de la vie plutôt que de l'existence, telle qu'elle va, je répète. Mais c'est beaucoup plus difficile d'approuver la vie que de la refuser tout de même.
Georges Bataille. Avec Odile Felgin, biographe de Roger Caillois, Jean-François Louette, qui a dirigé l'édition des récits de Bataille pour la Pléiade, Francis Marmande, qui a publié récemment Le pur bonheur aux éditions Ligne, Diego Masson, neveu de Georges Bataille, Bruno Maton, peintre, Michel Suria, son ouvrage La mort à l'œuvre vient d'être réédité par Gallimard, apparaître prochainement La sainteté de Georges Bataille. Voix de Georges Bataille et André Masson, Archivina Martine Auger. Texte lu par Quentin Bayou. Enregistrement Yves Lehorse, Tanguy Le Corneau. Mixage, Sylvain d'Angoise.
Une vie, une œuvre, Georges Bataille. Merci à Françoise Esteb et Julie Bérécy. Et ce soir, n'oubliez pas, dès 21h et jusqu'à minuit, la soirée spéciale que François Angelier consacre à Georges Bataille avec des lectures et des débats. Un salut à Bataille intitulé « Mourir aux éclats ».